Il est 8h sur France Culture. Rosalie Lafarge.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Ils rentrent. Les deux Français enlevés il y a 10 jours au Bénin ont été libérés hier dans le nord du Burkina Faso. Ils arrivent près de Paris tout à l'heure.
L'armée française paie un lourd tribut dans cette opération. 2 soldats français, excellents militaires, ont été tués.
Dans ce journal, nous irons au Mexique. Nouvelle grande manifestation des femmes qui cherchent leurs proches dans un pays où 40 000 personnes sont portées disparues.
L'Assemblée nationale valide le texte de loi pour restaurer Notre-Dame.
Mais à l'urgence de la reconstruction appuyée par le gouvernement, des associations répondent par l'urgence de la dépollution des environs. Qu'est-ce qui est petit, rouge et casse des briques avec sa tête ? Nathalie Loiseau, vous comprendrez pourquoi à la fin de ce journal.
Et à la fin du journal, nous retrouverons notre invité de la deuxième heure. Nous partirons aux États-Unis avec Dick Howard, qui est philosophe, distinguished professeur émérite de l'Université de New York.
Ils doivent arriver en France en fin d'après-midi, attendus par Emmanuel Macron. 2 Français et 1 Sud-Coréenne sont sur le chemin du retour, libérés hier dans le nord du Burkina Faso lors d'une opération très délicate. Elle a coûté la vie à 2 soldats français et elle témoigne peut-être, cette opération, d'un changement de doctrine de la France vis-à-vis de ses otages, Franck Madvon.
Officiellement, la France n'a jamais payé de rançon pour ses otages. En réalité, Paris a souvent accepté de mettre la main au portefeuille pour sauver la vie de ses ressortissants, par exemple en Syrie ou en Afrique, au Sahel. En 2014, une enquête du New York Times montrait que les groupes djihadistes, en particulier Al-Qaïda et ses filiales, avaient récolté 125 millions de dollars en 6 ans grâce au business des otages, dont 60 millions déboursés par la France. À l'inverse, d'autres pays, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ont toujours assuré qu'ils refusait de payer toute forme de rançon. Pas question de financer le terrorisme. Une doctrine controversée, des familles ont protesté, celle de James Foley par exemple, l'Américain tué en août 2014 en Syrie. En 2013, la France a, semble-t-il, changé de doctrine. Le président François Hollande a affirmé que Paris ne payait pas de rançon pour la famille de la dernière otage française dans le monde, Sophie Pétronin, enlevée au Mali. Cette doctrine ferme la porte aux négociations. L'intervention armée est alors la seule option.
Mais une option qui peut coûter très cher et qui a d'ailleurs coûté très cher à l'armée française. Hier, rappel au micro d'Olivier Poujade, Pascal Le Potrema, expert des questions de défense.
Le prix est extrêmement élevé. Vous avez 2 opérateurs de très très haut niveau qui sont morts. Leur profil témoigne de gens véritablement d'excellence, qui ont à la fois une combinaison de compétences intellectuelles très élevées, de technicité très élevée et de rusticité, endurance d'un point de vue physique qui sont hors normes. La fine fleur des forces spéciales, ce sont les commandos marines parce qu'ils ont une excellence en matière d'expertise terrain, ils ont une complémentarité d'action qui font qu'ils peuvent opérer à la fois en espace maritime, strictement terrestre et même être envoyés depuis les airs. Et de surcroît, au sein des commandos marines, vous avez le commando Uber qui regroupe des gens qui ont une formation de nageurs de combat.
Et dont faisaient partie ces 2 soldats. Un hommage national leur sera rendu mardi aux Invalides. Une opération en tout cas très délicate mais nécessaire selon le chef d'état-major des armées. Il fallait agir vite pour éviter le risque d'un transfert des otages enlevés au Bénin à un groupe qui opère au Mali. Ce qui souligne encore une fois la complexité de la question djihadiste en Afrique de l'Ouest. Thomas Hoffnung est journaliste du site The Conversation, spécialiste de l'Afrique.
Il y a une personnalité qui fédère un petit peu ces groupes dans la zone, c'est Iyad Agrali, qui est un Touareg, qui a mené des rébellions avant de devenir djihadiste dans les années 90 contre l'État central de Bamako au Mali. Et en fait, Iyad Agrali, qui apparaît un peu comme l'ennemi public numéro 1 pour les Français, eh bien sous sa bannière, il a réuni différents groupes, dont la Katiba Massina, donc dans le centre du Mali, et puis d'autres groupes qui ont surgi au fur et à mesure des années et qu'on retrouve aussi maintenant de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso. Les uns sont liés, plutôt affiliés à Al-Qaïda, d'autres à l'État islamique, mais tous poursuivent le même objectif finalement, c'est de déstabiliser ces pays, de rallier les populations à leur cause et surtout aussi de bouter les Français hors de ces territoires.
Thomas Hoffnung avec Mathieu Laurent.
Une triste fête des mères hier au Mexique.
Les mères des disparus ont une nouvelle fois choisi cette journée pour manifester. Elles dénoncent l'incapacité des autorités à retrouver leurs proches. Plus de 40 000 personnes sont portées disparues au Mexique, Emmanuel Stills.
Cela fait 3 ans que Salomé Triguero est sans nouvelles de son fils, un lycéen de 18 ans kidnappé par un commando armé près de leur maison dans le nord du Mexique. Comme les centaines de mères qui ont manifesté ce vendredi, elle se consacre exclusivement à sa recherche. Depuis plusieurs années, les familles de disparus parcourent les campagnes pour récolter des informations et localiser des fosses clandestines. Salomé participe à ces expéditions deux fois par semaine avec d'autres mères.
Quand nous trouvons des corps de victimes, nous sommes à la fois tristes et satisfaites parce que ce sont les enfants d'autres mères qui souffrent. Alors il faut découvrir de qui il s'agit. Nous trouvons des disparus, mais encore faut-il pouvoir les identifier.
Il y a quelques jours, une enquête officielle était ouverte sur d'éventuelles fosses clandestines à l'intérieur d'une prison de Coatzacoalcos, dans l'est du Mexique. Originaire de cette ville, Laetitia Orozco, mère d'un jeune disparu, n'est pas surprise par cette nouvelle.
Le crime organisé a pris le contrôle de certaines prisons, alors imaginez tout ce qui peut s'y passer. Vu ce contexte, nous sommes résignés à recevoir les pires nouvelles concernant nos disparus. Nous vivons un deuil qui n'en finit pas.
Au fil des années, les maires placent de moins en moins d'espoir dans les autorités, incapables d'endiguer le phénomène des disparitions. Mais elle demande au gouvernement de les aider, de ne pas les laisser chercher seuls leurs enfants.
France Culture à Mexico avec Emmanuel Stills. Au Venezuela, le bras droit du président par intérim Juan Guaido est maintenant dans une prison militaire, transféré deux jours après son arrestation pour sa participation au soulèvement manqué contre Nicolas Maduro, toujours au pouvoir. Les États-Unis envoient une batterie de missiles au Moyen-Orient. Un navire de guerre bien chargé va renforcer le porte-avions déjà déployé dans la zone pour faire face à des menaces d'attaques imminentes attribuées à l'Iran. 70 pays appellent la Corée du Nord à abandonner ses armes nucléaire. Parmi les signataires de ce texte rédigé par la France, on trouve les États-Unis et la Corée du Sud, mais pas la Russie ni la Chine. On dépouille toujours les bulletins de vote en Afrique du Sud, mais le suspense est relatif. L'ANC, parti historique de Nelson Mandela, remporte les législatives, mais il perd du terrain au profit notamment Noé Hochebaudin de l'extrême gauche de l'IFF et des conservateurs du FF+.
La montée de ces deux partis extrémistes est la conséquence du débat sur l'expropriation des fermiers blancs. Opportunité pour les uns, peur pour les autres. C'est donc un thème de campagne cher à l'IFF de Julius Malema, mais aussi pour le FF+, de Wouter Wessels, proche des fermiers blancs, qui s'oppose à la nationalisation des terres en Afrique du Sud.
Et aussi à la nationalisation des banques et des mines. Je pense que d'un côté, il y a des gens qui voient cette nationalisation des terres comme une solution pour lutter contre la pauvreté et ils votent EFF. De l'autre, ceux qui s'y opposent votent pour nous.
Selon l'analyste Suzanne Boyson, le débat sur la redistribution des terres est tellement omniprésent et sensible que le parti d'extrême droite aurait même pu réaliser un meilleur score aux élections.
Dans les scrutins précédents, leurs électeurs votaient Alliance démocratique ou ne votaient pas. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne performance pour le FF+, d'avoir gagné seulement de 2 points.
L'Alliance démocratique, le deuxième parti du pays, a perdu des voix par rapport à 2014. Selon son leader, Moussi Maïmane, c'est avant tout la faute au populisme.
Il y a eu une montée des nationalismes et les partis qui ont misé dessus ont été récompensés dans les urnes. C'est une tendance mondiale contre laquelle nous luttons. Nous étions le seul parti à dire qu'il fallait une Afrique du Sud pour tous, alors que les autres disaient « nous sommes le parti des Blancs » ou « nous sommes le parti des Noirs ».
Et avec la question des terres qui doit être discutée au Parlement dans quelques mois, l'IFF et le FF+, devraient encore profiter un peu plus des tensions entre les différentes communautés sud-africaines.
Les résultats officiels devraient être proclamés dans la journée. Uber dévisse pour son entrée en bourse. L'action de la plateforme de voitures avec chauffeur perd jusqu'à 9% pour ses débuts à Wall Street hier.
France Culture 8h08, suite du journal. Le projet de loi pour la restauration de Notre-Dame est adopté.
32 voix pour, ça suffit, en pleine nuit pour valider le texte. L'Assemblée l'a adopté après avoir discuté pendant 13 heures de gestion des dons et conduite des travaux. Mais un mois après l'incendie de la cathédrale parisienne, certains s'inquiètent d'une éventuelle pollution au plomb. Plus de 300 tonnes ont fusionné sous la chaleur des flammes. Et Jackie Bonnemain, président de l'association Robin des Bois, réclame une cartographie des retombées.
On souhaiterait que des prélèvements soient faits à titre aléatoire dans certains appartements, en particulier là où les gens ont assisté à cet incendie comme si c'était un feu d'artifice avec toute la famille sur le balcon. Et puis que à la suite de ces prélèvements, eh bien, une cartographie claire soit diffusée auprès de tous les habitants pour que ceux qui se sentent en danger se tournent vers les médecins de l'État et non pas vers leurs médecins traitants pour faire un relevé de plomb. non dans leur sang. C'est une consultation gratuite selon les textes en vigueur.
Jackie Bonnemain avec Maud Calves. Dick Howard est avec nous ce matin sur France Culture. Bonjour monsieur.
Et bonjour.
Vous partagez votre vie entre la France et les États-Unis. On le sait, cet incendie à Notre-Dame a provoqué une grande émotion chez les Américains. On parle aujourd'hui de reconstruire la cathédrale. Nos députés en ont discuté jusque tard dans la nuit. Qu'en pense le philosophe que vous êtes? Est-ce que cela a du sens de rebâtir à l'identique ce monument?
Je ne peux mieux faire que de citer justement Victor Hugo lui-même. Dans la note ajoutée à l'édition définitive en 1832, il dit, et je cite, « C'est par erreur qu'on a annoncé cette édition comme devant être augmentée de plusieurs chapitres nouveaux. Il fallait dire inédit. En effet, si par nouveau on entend nouvellement fait, les chapitres ajoutés à cette édition ne sont pas nouveaux. Ils ont été écrits en même temps que le reste de l'ouvrage. Ils datent de la même époque et sont venus de la même pensée. Ils ont toujours fait partie du manuscrit de Notre-Dame de Paris. Il y a plus. L'auteur ne comprendrait pas qu'on ajoutât après coup des développements nouveaux à un ouvrage de ce genre. Cela ne se fait pas à volonté. Un roman, selon lui, naît d'une façon en quelque sorte nécessaire avec ses chapitres. Un drame naît avec toutes ses scènes. Ne croyez pas qu'il n'y ait rien d'arbitraire dans le nombre de parties qui donc se composent, ce tout, etc., etc. Autrement dit, reconstruire, oui, reconstruire dans le même esprit, oui, mais on ne va pas faire une œuvre du bon Dieu ou de Jupiter, si je puis dire, voilà.
On a entendu votre position, Dick Howard. Merci beaucoup, on vous retrouve juste après ce journal dans la suite des matins du samedi avec Caroline Brouet. Le parquet de Paris ouvre une enquête après le fichage de personnalités pour Monsanto. Des centaines de personnes classées en fonction de leur avis sur le glyphosate, l'herbicide phare de la firme. Lyon et Nantes, voici les épicentres annoncés de la contestation des Gilets jaunes aujourd'hui. 26e samedi de mobilisation, deux jours après la manifestation des syndicat de la fonction publique. Une aberration pour Aline, gilet jaune dans le Var.
Si on continue à faire ce que j'appelle moi des grévinettes chacun de notre côté, ça le fera pas. Alors maintenant, je sais bien que le mouvement de gilets jaunes ne fait pas peur qu'au gouvernement, ça fait peur aussi aux actions syndicales parce qu'ils ont peur qu'on leur bouffe la biscotte. Mais bon, on gagnera ensemble ou on gagnera pas. Aujourd'hui, tous unis ou c'est fini.
Elle n'a pas les moustaches ni la salopette, mais quand même, Nathalie Loiseau prend les traits de Mario dans un jeu vidéo diffusé sur Internet par les jeunes avec Macron. Leur façon de soutenir la liste Renaissance aux européennes et celle qu'il incarne, Steven Goyer.
C'est une Nathalie Loiseau tout sourire, veste rouge sur les épaules qui se retrouve incarnée à l'écran. Le personnage avance de lui-même dans un gameplay assez classique, ramasser des fruits, éviter les gros frelons qui avancent dans le ciel et sauter sur les cloportes au sol pour glaner un maximum de points. Et comme dans la série des Mario Bros, la tête de liste peut également casser des briques avec sa tête. Objectif, parvenir à la fin du niveau pour récupérer les étoiles du drapeau européen. 12 étoiles pour 12 niveaux émaillées de messages politiques. Pour preuve, à partir du niveau 5, avec un décor romain en toile de fond, les obus recouverts de la tête de Matteo Salvini ou encore Marine Le Pen et Donald Trump en boss finale. Et dès le niveau 4, c'est Jean-Luc Mélenchon ou son avatar Mélan Russe, un frelon géant qui apparaît sur fond rouge. Musique angoissante à la pluie. Et c'est justement ce qui pose problème au député insoumis Alexis Corbière.
Jean-Luc Mélenchon est grimé dans un personnage sous forme d'insecte qui s'appelle Mélan Russe. Alors on aura compris, évidemment, Mélenchon est censé être le représentant des Russes, de Poutine, tout ça est une vision complètement grotesque. Et puis bon, représenter les gens sous forme de cafards, les bestialiser comme ça, plutôt ça puise un peu dans un registre qui était les xénophobes du XXe siècle qui faisaient ça. C'est pas glorieux, quoi. C'est pas très original, c'est pas très bien fait en plus, donc... Je pense que c'est au niveau des jeunes avec Macron, ils en sont là. Bon, si ça les amuse, je les laisse, mais c'est pas du top niveau.
Le député qui parle aussi d'un manque d'originalité de la démarche jugée très inspirée par le jeu Fiscal Combat diffusé en 2017, justement par les Insoumis.
Ce jeu où l'on pouvait secouer des hommes politiques et les grands noms de la finance pour faire tomber l'argent de leur poche et le rendre à l'État. Steven Goyer. Avant le retour du soleil sur la façade atlantique dans l'après-midi, la pluie domine encore aujourd'hui. Et si les températures grimpent jusqu'à 22 degrés sur la moitié sud, elles dépassent difficilement les 15 degrés au nord.